Boomerang avec le musicien Warren Ellis ce matin, c'est parti. J'aime les rebuts, les raretés, les prises qu'on avait mises de côté, les enregistrements dérobés, les bootlegs, les outtakes, toutes ces pépites inédites qui en musique auraient pu rester dans le placard, mais qui se retrouvent un jour comme par magie gravées sur un disque, avec la complicité souvent des artistes. Je les aime parce que ce sont des bonus, des cadeaux, des petits trucs en plus qu'on trouve dans des rééditions ou dans des albums inédits, mais qui ont en commun d'être entièrement dédiés aux fans. Ces morceaux, ils s'adressent à celles et ceux qui connaissent tout par cœur et à qui on propose de prolonger le plaisir. C'est l'équivalent des scènes coupées à la fin d'un DVD ou d'un manuscrit original où on trouverait tout ce qui a été édité, à commencer par les ratures et les chapitres que l'auteur a mis de côté. En musique, la question, c'est pas de savoir si ces morceaux sont les meilleurs, mais plutôt de donner aux auditeurs un aperçu de la composition. C'est une plongée au cœur de l'infini de la création. Parfois, c'est la faute à pas de chance. Ça s'est joué à presque rien, il y a quelque chose qui a loupé et ces morceaux sont restés des essais. Ils sont la preuve du travail vertigineux de l'artiste qu'on adore. Parfois, ils n'ont pas trouvé leur place, ces morceaux, et c'est comme par magie qu'ils se retrouvent à exister. Mais souvent, ce sont des accidents, des à-côté, c'est-à-dire que rien dans ces morceaux n'était calculé, et ils n'ont jamais été améliorés. Il y a quelque chose de l'ordre du brut, de la vérité, quelque chose de l'ordre de la beauté.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui en a sans doute encore plein ses tiroirs. Multi-instrumentiste, compositeur de musique, de film, récompensé notamment il y a 5 ans pour la BO du film Mustang, ami de Marianne Faithfull, camarade de jeu surtout de Nick Cave. C'est peut-être l'un des musiciens les plus étonnants de ces 25 dernières années. B-Sides and Rarities, une compilation de morceaux inédits extraits de sessions d'enregistrement avec le groupe de Nick Cave, The Bad Seeds, sort dans 10 jours. De l'élégance, de la décadence pour une expérience pour le moins intense. Bonjour Warren Ellis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Un grand plaisir.
Ce matin. Alors combien de morceaux est-ce que vous avez encore dans vos placards en stock, des morceaux que vous avez mis de côté, Warren?
Moi, il y a toujours des morceaux qui traînent dans le tiroir.
Plein.
Moi, je compose tout le temps. Et pendant le confinement, Nick, il m'a appelé, disons, on a envie de faire un autre B-Sides. Et là, j'ai trié dans mon tiroir et j'ai trouvé trois CD de maquettes. Je les ai envoyés et puis on a réussi en fait de faire un CD de titres inédits.
Mais ces morceaux, pourquoi est-ce que vous les aviez abandonnés? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de pas les sortir au départ?
Parce que ça arrive avec le processus, comment on travaille à ce moment. Depuis quelques ans, en fait, Nick et moi, on se trouve dans un studio, commence à 10h du matin, on se termine à 20h, et on fait les buffs, les jams tous les jours. Et bon, les trois derniers disques et toute la musique du film est fabriquée comme ça. Alors, il y a beaucoup, il y a des bijoux et il y a de la merde aussi. Et voilà, il y a beaucoup, on peut faire, à la fin d'une session de 5 jours, on peut avoir 50, 60 morceaux.
Mais comment est-ce qu'on sait qu'une chanson est terminée? C'est quelque chose que vous sentez?
Vraiment question, je crois que c'est un sentiment dans le ventre, mais ça continue jusqu'à la scène. Après, sur scène, ça trouve sa propre, sa place. Mais il y a une évolution qui continue. Il y a des morceaux qui existent que sur la disque et live, ça marche pas. Et les autres qui la vie continue pour sur scène.
En tout cas, le nouveau disque de Nick Cave and the Bad Seeds, il dit aussi quelque chose de votre processus de création, Warren Ellis, particulièrement en studio. Quel rôle joue l'improvisation dans la naissance d'un morceau, un morceau qui reste?
Ben, depuis l'improvisation, c'est plutôt depuis la dernière 6, 7 ans, 8 ans. Avant, c'était Nick qui arrive dans le studio avec la texte, avec les cordes, et puis c'était la groupe qui a décidé comment ça va être en fait la morceau. Et je trouve le truc fabuleux avec B-Sides, surtout c'est des morceaux de chaque session, et quand on les pose ensemble dans une coffret, c'est assez schizophrénique. Ça commence avec vraiment le début du groupe avec From Her to Eternity ou Scum, un morceau comme ça. Et ça lance pas tout. Et j'aime bien ça. C'est vraiment schizophrénique. C'est assez cinglé, quoi.
Mais comment on fait, Warren Ellis, pour improviser avec d'autres musiciens sans que ça se transforme en cacophonie, sans que ce soit le bazar?
Bah, c'est pas tout le monde que ça fonctionne pas, ce système avec tout le monde. Ça marche avec Nick et moi parce qu'on est à l'aise et a une confiance que en fait tu peux faire un shoot, tu peux faire n'importe quoi et il faut avoir une confiance avec les autres gens.
Il faut s'écouter en fait. Ouais. Quelle qualité est-ce que c'est l'écoute pour un musicien justement? L'écoute, le fait d'écouter, c'est ce qu'il y a de plus important pour un musicien.
J'ai quoi, ouais.
Et vous savez quoi, j'ai envie qu'on vous écoute, moi, Warren Ellis, avec Nick Cave et les Bad Seeds. Premier extrait de B-Sides and Rarities, ça s'appelle Vortex. Avec ses instruments, même s'il n'en a pas ce matin, Warren Ellis. Ça fait plus de 25 ans que vous avez rejoint Nick Cave et son groupe. Cette alliance créative, cette amitié, comment est-ce qu'elle est née?
J'ai rencontré Nick avec un pote au dîner et en fait, c'était l'époque où j'ai venu commencer avec Dirty Three, avec mon groupe, et il m'a invité de venir dans le studio. Et c'était les enregistrements pour Murder Ballad.
Mais pourquoi est-ce qu'il est venu vous chercher, vous? Qu'est-ce qu'il est
je
venu chercher
pas,
chez
je
vous?
Quoi, bon, à l'époque, je sais pas, mon groupe était un peu connu par quelques gens, mais il avait jamais entendu. Après l'enregistrement, il m'a invité d'y aller, de venir un jour. À la fin de la journée, il m'a dit, bon, tu peux venir pour toute la semaine si tu veux. Après ça, il a loué une voiture, il a vu mon groupe, il a loué une voiture avec un pote et ils ont fait un voyage jusqu'à Brisbane, qui est 2000 kilomètres.
En Australie.
Il a monté sur scène avec nous, on a fait des prises et à la fin, il a dit, écoute, si vous trouvez en Europe, on a des dates en Grèce et Israël et c'est comme ça. Et mon groupe a fait la première partie pour les Bad Seeds, et puis voilà, on commençait comme ça.
Et vous, qu'est-ce qu'il vous apporte, Warren Ellis, sur le plan musical? En quoi est-ce que vous êtes complémentaire? Nick Cave, avec qui vous serez, je le précise, ce soir en concert, ouais, à la salle Playel.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous apporte, Nick Cave?
Moi?
Qu'est-ce qu'il vous donne?
Je ne sais pas, si j'ai la réponse, c'est ça, c'est. Je ne sais pas. Il m'a donné envie de crier, il m'a donné envie de jouer. J'adore sa façon de travailler. Il m'a poussé tout le temps et je fais qu'est-ce que je veux.
Alors, on va revenir aux origines. Quand tout commence entre vous et Nick Cave, on est au début des années 90. Vous faites partie d'un groupe de rock instrumental expérimental qui s'appelle Dirty Three. Quelle musique, quel son est-ce que vous aviez l'impression de proposer à l'époque? De quoi est-ce qu'il était fait, ce son, Warren Ellis?
Oh, je ne sais pas. C'était toi, un mec qui cherchait quelque chose. Moi, j'avais un violon électrique. Il y avait une guitare, une batterie voilà, on savait pas qu'est-ce qu'on cherchait, mais
ça vous va si je dis des vibrations?
Ouais, on cherchait des vibrations. C'était un grand liberté, mais c'était on aimait bien qu'il y avait une narrative sans texte,
un récit, histoire.
Ouais.
Dites-moi, quand est-ce que vous avez compris qu'une vibration ça pouvait produire de l'émotion?
Quand j'étais très petite.
Ça s'est passé comment?
Je crois que c'est comme mon père, il m'a joué ces morceaux qu'il avait écrits sur la guitare. Pour moi, ça commençait très, dans l'église, j'étais toujours émouvé par les chansons dans l'église. Je sais pas, pour moi, et en fait, c'est assez récent que j'ai compris que la musique, les vibrations, c'est important pour moi dans la vie.
Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui?
Moi, bon, c'est toujours la musique, les films, lecture. Je travaille avec des animaux maintenant, au Sumatra. J'ai fondé un parc. Ça m'a fait vibrer.
Le Ellis Park.
Ouais.
Vous savez qu'il y en a une qui nous fait vibrer dans cette émission, une fois n'est pas coutume, c'est la culture et son actualité pleine de vibrato et de bonnes ondes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 12 octobre ?
Faire un film, pour moi, ça fait mal. C'est comme le cœur qui bat, quoi. Au fond, oui, je me dis, ben, si il n'y a plus de cœur, s'il n'y a plus de film, il n'y a plus de vie.
Go les Vigo, la réalisatrice Claire Denis a reçu hier le prix Jean Vigo d'honneur 2021 pour l'ensemble d'une œuvre qui n'a jamais cessé de se renouveler. Autrice de l'intime, des corps, des marges, architecte d'une filmographie souvent radicale, on lui doit notamment les films Beau Travail, Trouble Every Day, White Material et plus récemment Un Beau Soleil Intérieur coécrit avec Christine Angot. Dans le même temps, deux autres réalisatrices indépendantes et novatrices ont été distinguées, Axelle Roper pour La Petite Solange et Lila Pinel pour son court-métrage Le Roi David. Bête d'expo, le château de Versailles, en partenariat avec le Louvre, inaugure aujourd'hui Les Animaux du Roi, une grande exposition consacrée aux bestiaires de la cour sous l'ancien régime, chiens, chats, poules, moutons, mais aussi éléphants, singes ou casoars. L'événement propose d'explorer la richesse et la diversité de la faune du palais et son domaine à travers 300 œuvres animales. On y découvre entre autres sculptures, tableaux et tapisseries, le pachyderme naturalisé de Louis XV et les excentricités fantastiques de la ménagerie royale créée par Louis XIV au poil.
The pig was a small toy pig made of the same material as a soft towel.
Axio Rowling Goose, la créatrice de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, revient en librairie. Elle dévoile aujourd'hui dans le monde entier Jack et la grande aventure du cochon de Noël, un nouveau roman jeunesse sous la forme d'un conte féerique traduit dans plus de 20 langues. Le roman qui n'a rien à voir avec l'univers des sorciers et des moldus met en scène un petit garçon qui a perdu sa peluche et se lance dans une épopée fantastique pour la retrouver, épaulé par des jouets qui prennent vie. C'est Noël avant Noël.
Bizarre.
Vous avez dit bizarre ? La Villette à Paris accueille dès aujourd'hui la première édition du Festival Bizarre, un événement que ses organisateurs définissent comme le rendez-vous inattendu pour communautés curieuses. Au programme, une vingtaine d'événements festifs, musicaux ou artistiques pensés pour retisser de la convivialité autour de personnes aux identités marginalisées, parfois victimes d'isolement lors de la pandémie. Il y aura des brunchs, des barbecues, des bingos, des expos, une grosse sono. On y go, on lève les bras bien haut. Et le compositeur et musicien Warren Ellis, très étonné que je lance le boomerang comme ça pour faire des petits
impressionnant,
sons.
Impressionnant, hein.
C'est pour ça que ça s'appelle
j'aime
boomerang.
J'aime bien ton métier, c'est cool, hein. C'est le speed.
Moi, j'aime bien le
c'est
vôtre.
C'est comme les années 90 pour moi. C'est super cool.
Meilleur compliment. On parle de création et de musique. Vous êtes né, Warren, en Australie, au milieu des années 60. Quel est le premier instrument?
14 février.
14 février. Ouais. Ah, le jour de la Saint-Valentin.
Il paraît, ouais.
Moi, je vous le dis, moi. Quel est le premier instrument dont vous ayez joué?
C'était un accordéon, j'ai trouvé dans une déchetterie.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Warren?
Je ne sais pas, j'ai traîné dans une déchetterie parce que c'était un paradis pour un enfant. J'ai trouvé un accordéon un jour, j'ai commencé et après ça, j'ai commencé le violon parce que il y avait un prof qui s'est présenté disant qui veut jouer le violon. Et j'ai remarqué que toutes les filles se levaient la main.
Ah.
Et moi, j'ai levé le mien. Voilà, j'arrive à la classe avec un violon.
Vous
et il
n'y
avait pas de filles. Ouais. C'était, il n'y avait que moi et mon pote qui pensait qu'il était un martien.
Mais l'accordéon, vous en avez fait quoi? Vous l'avez toujours?
L'accordéon? Non, celui, je joue avec Nick, je joue sur scène ou même sur Boatman's Call, je joue sur Black Air, un morceau. Non, je joue l'accordéon de temps en temps.
Mais c'est plus le même accordéon, celui de la décharge.
Non, ça, non, ça c'était piqué en Italie.
Warren Ellis, dans quel environnement musical est-ce que vous avez grandi, vous? Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Ellis dans l'Australie des années 70?
C'était un peu tout, country western, Hank Williams, Chad Morgan, un chanteur australien. Mon père, il jouait les guitares, il chantait, un peu de rock and roll, mais... Et après, j'ai découvert AC/DC, Bowie, dans les années 70.
Est-ce qu'on écoutait Marianne Faithfull?
Un peu plus tard, ouais. Mais, ouais, j'ai découvert Marianne Faithfull grâce aux images avec Bowie quand ils ont chanté ce morceau sur télévision. Mais c'était qu'un photographe. Et puis j'ai découvert Broken English.
Voilà, vous me tendez une perche monumentale. Ouais. La voix de Marianne dans un enregistrement que les auditeurs
Marianne.
Ne connaissent peut-être pas encore.
Elle est venue nous en concert à Londres.
Et elle allait bien ou parce que quand elle est venue dans Boomerang il y a très longtemps, elle avait un problème à la hanche.
Elle a toujours des problèmes. Depuis le Covid et tout ça, mais elle était très courageuse. Elle est venue nous au Royal Albert Hall.
On l'écoute.
Elle a risqué jusqu'à la fin, il paraît, mais elle était obligée de partir parce qu'elle ne pouvait plus.
On l'écoute et derrière elle, Warren Ellis, c'est vous.
She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies.
Les mots de Lord Byron sur votre musique, Warren Ellis, et la voix de Marianne Faithfull sur l'album She Walks in Beauty, paru au printemps dernier. On parlait de vibration tout à l'heure. La voix de Marianne Faithfull, en quoi est-ce qu'elle vous fait vibrer, justement?
Juste pour parler de ce disque, on m'a envoyé les textes de Marianne et en même temps, on m'a dit qu'elle était en hôpital, dans une coma avec Covid. Et c'était vraiment le début du lockdown et comme tout le monde, j'étais bouleversé, tout était annulé, je savais pas qu'est-ce qui passait. Mais la texte du poésie, c'était comme un médicament pour moi. C'était ça m'a sauvé. C'était comme une méditation et j'ai mis les textes que Marianne m'a envoyé. Et puis j'ai composé la musique.
Sa voix, justement, sa voix, qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Marianne, elle peut lire un directoire,
le dictionnaire,
n'importe quoi, et c'est la poésie avec c'est sa voix est extraordinaire. Il y a vie dedans, il y a c'est profonde. Et moi, je dois dire que les textes de ce poésie, moi j'ai les étudier à l'université, mais ça m'a pas parlé de tout. En Australie, il me semblait très lourd et ça volait pas. Et quand j'ai écouté dans la bouche de Marianne, ça a pris vol.
Peut-être que c'est parce que la poésie, il faut qu'elle soit dite.
Elle m'a dit ça exactement parce que je faisais un truc pour ce Radio France sur Charlie et j'ai pas compris du tout le texte. J'ai passé chez Marianne, elle a lu et j'ai dit mais comment tu fais ça, Marianne? Elle m'a dit it's just a bloody song, Warren. Comme ça, c'est un morceau, c'est une chanson. Et elle m'a dit, moi je comprends pas tous, mais c'est une chanson. Et là, j'ai compris un truc.
Qu'est-ce qui vous fascinait, vous, dans le rock'n'roll, Warren Ellis, quand vous l'avez découvert?
Oh, je sais pas, je crois l'énergie, mais le rock'n'roll, pour moi c'était AC/DC, Black Sabbath et tout ça. Bon, après ça, j'ai découvert Elvis et tout ça, mais...
C'est intéressant parce que votre instrument, c'était
mais
le violon.
Mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la musique en général. Moi, j'écoutais Stravinsky, j'écoute Bathory, j'écoute Miles Davis, j'écoute John Coltrane, Alice Coltrane, j'écoute la musique folk, j'aime bien la musique qui m'émeut.
Qui vous émeut. Et vous saviez que le violon, vous alliez pouvoir l'utiliser facilement pour ces musiques-là, pour le rock'n'roll?
Comment?
Vous saviez que le violon, vous alliez pouvoir l'utiliser?
Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais aimé le violon. Et puis, au début des années 90, mon frère, il a attaché un micro d'une guitare avec un rubber band, tu vois, un scotch. Et il m'a donné un pédale pour une guitare et je m'ai mis à fond. Mais le violon et le rock'n'roll, ça m'a jamais parlé. Le violon m'a pas parlé jusqu'à je sais pas. Il faut lire mon livre, comme ça tu veux comprendre. J'ai viens de sortir un livre sur ça s'appelle Nina Simone's Gum. Et là, je parle un peu de mon entraînement et mon rapport avec la musique. Mais c'est plutôt une histoire d'un bout de chewing gum. J'ai piqué de la piano de Nina Simone à la fin des années 90. qui a resté dans mon studio comme un quelque chose sacré. Et maintenant, c'est dans un coffre dans le Royal Danish Library. Et c'est en exposition, dans l'exposition de Nick Cave. Ils avaient fait un tournée du monde. C'est fabuleux.
On se fait une petite vibration, là, tous les deux. On va vibrer avec la voix de Nick Cave qui chante The Willow Garden, le jardin des saules, sur votre nouveau disque B-Sides and Rarities Part 1 and 2, un titre que vous voulez nous faire découvrir. Vous êtes sur France Inter avec Warren Ellis. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Down in the willow garden, me and my love did meet. And as we said, according, my love fell off to sleep. I had a bottle of burgundy wine, my love she did not know. So I poisoned that dear little girl along the banks below, along the banks below. I drew my saber through her, was that bloody night. I threw her in the river, which was a dreadful sight. My father often told me that money set me free. So I murdered that dear little girl's name. Rose Connolly, his name is Rose Connolly. Sits at his cabin door, wiping his tear-dimmed eyes. His only son soon should walk to yonder scaffold high. My race is young, did need the sun. Scaffold now waits for me. For I did murder that dear little girl's name. Rose Connolly, whose name was Rose Connolly, whose name's Rose Connolly.
Inter, Boomerang, Augustin Trappenard.
Vous savez, on est à mi-chemin entre Merlin l'Enchanteur, le cow-boy et le dandy, la barbe homérique, le cheveu et le sourcil broussaille, l'œil chaman, c'est une hallucination à lui tout seul, tout en chemise ouverte, de toutes les couleurs, le compositeur et musicien Warren Ellis, invité de Boomerang ce matin pour la sortie dans 10 jours de B-Sides and Rarities Part 1 and 2 du groupe Nick Cave and the Bad Seeds, dont il est un membre actif depuis plus de 25 ans. Et je vous regardais là, écouter cette chanson que vous nous avez conseillé de passer, The Willow Garden. Et je vous voyais si silencieux, si concentré. Qu'est-ce que vous voyez?
C'est la voix de Conway, en fait. Conway Savage qui chante ce morceau. Et lui, il est disparu depuis 2 ans. Il me manque énormément de Conway. En fait, et ce morceau, c'est la première composition que j'ai fait avec Nick Cave quand il m'a invité dans le studio. Et voilà, j'ai fait un arrangement avec lui pour ce morceau.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez de la musique, Warren? Dans quel état est-ce que ça vous met?
Je ne sais pas. C'est une question que je ne me pose jamais parce que je ne veux pas que ça s'arrête. Mais c'est le seul endroit qui m'a permis d'être comme ça dans ma vie. C'est comme quand on fait la pêche ou quand on va dans un atelier de violon, tu as l'impression que le temps s'arrête. Et on s'en fout avec le reste, c'est que ce moment, que c'est le moment, je suis dans le moment. Et je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Et je veux pas savoir.
J'ai envie de vous mettre dans un état second là. Vous savez que c'est facile pour moi, il suffit de lancer le boomerang. Ouais. Vous voulez le lancer vous?
Voilà,
allez-y. Qu'est-ce qu'on entend?
Miles Davis, Peaches Brew.
Carol's
Dance, ouais, j'adore ce disque. J'adore Miles Davis, ouais.
Et quelles images est-ce que ça fait surgir?
Parce que je vois jamais les images, mais pour moi c'était l'espace plutôt avec Miles Davis, et un musicien, un compositeur extraordinaire. J'ai lu, on lui demandait c'était quoi ses inspirations, il a dit la voix du Orson Welles. Et le boxeur Joe Louis, c'est ça qui inspirait son comment il jouait son instrument. Je trouvais ça extraordinaire que c'était the phrasing of Orson Welles. Mais pour moi, Miles Davis, c'est un grand musicien.
Mais vous dites d'ailleurs que cet album Bitches Brew, il a changé votre vie.
Ah oui, ça a changé ma vie. Ouais. J'avais 17 ans. Et juste à ce point-là, j'ai découvert Stravinsky, Bitches Brew et John Coltrane en même temps. Et jusqu'à ce point-là, j'écoutais du rock and roll et tout ça. Mais cette musique-là, c'était une ouverture à un monde je croyais pas possible.
Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur le plan musical?
C'est plutôt que j'ai rien compris et ça m'a donné envie d'entrer dedans. J'étais obligé de réécouter, trouver ma place. C'était pas évident. Et pour moi, toute ma vie créative, c'est les idées atterrantes, c'est les idées que je comprends pas, qui m'a fait peur. Et je suis plutôt attiré vers ça que le truc qui me fait sentir à l'aise.
Puis il y a aussi cette idée, dites-moi si je me trompe, hein, d'envisager la musique comme un processus de recherche, d'expérimentation permanent. Qu'est-ce que vous recherchez au fond, Warren Ellis, quand vous créez de la musique?
Que peut-être un jour, je vais faire quelque chose du bien. Honnêtement, pour moi, c'est ça en fait que je cherche. C'est ça qui m'a donné envie d'aller dans le studio et aussi que j'aime bien travailler avec les gens que je travaille.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez
le
fait...
le jour que je m'ennuie avec la musique, j'ai pas le droit de continuer. Il faut que je reste respectueuse au processus et l'acte du création. C'est ça qui m'intéresse.
Mais vous dites peut-être un jour faire quelque chose de
bon,
bien.
Moi, c'est le truc, c'est sacré dans ma vie, la musique. Et c'est comme une quête spirituelle, je crois. J'ai compris ça en écrivant ma livre l'année dernière que j'ai recherché depuis longtemps Et c'est la vibration qui m'attire tout le temps. Et non, pour moi, c'est de créer quelque chose. Il faut que je mérite la recherche et je mérite les résultats. Ça m'intéresse pas de sauter un truc pareil. Pour moi, il faut qu'il y ait un avancement. Musique de film, c'est fabuleux parce que là, il s'oublie de se vivre une autre chose, un projet. Et j'adore faire ça parce que ça fait une ouverture, une liberté extraordinaire. Je sais pas, j'ai fait combien de disques maintenant, mais pour moi, je veux rester dedans pendant que je sens que j'ai le droit de continuer.
En tout cas, on vous le donne, ce droit. Merci tellement, Warren Ellis, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que B-Sides and Rarities, part 1 and 2...
Ça marche pas pour moi, non.
Non, il n'y a que moi qui lance le Boomerang. The Nick Cave and the Bad Seeds sort dans 10 jours. Je précise que vous serez ce soir en concert à la salle Playel, ouais, avec Nick Cave, Break a Leg. Tout de suite,
merci.
Les médias.
On dit merde, non?
On peut dire ça. Dans Boomerang.
Bah, c'est
merde, allez, merde.
Merde,
Sonia De Villers, hein. Son instant M, juste après ça. Elephant, Nick Cave and Warren Ellis sur France Inter.